Bonsoir à toutes et à tous. Et je tiens d'abord à remercier le patronage laïque pour cette invitation qui va me donner l'occasion de montrer ma vision d'un domaine fascinant qui est l'intelligence artificielle. Alors juste deux mots sur ma formation. Je suis de formation mathématicien, informaticien. Et j'ai fait ma première thèse de doctorat sur le sujet de l'apprentissage artificiel à l'université d'Orsay. Donc on va parler ce soir de l'intelligence artificielle et je vais donner plutôt une vision d'un scientifique qui est plus proche de la réalité que de la fiction. Parce que l'intelligence artificielle, comme vous le savez, vous l'avez déjà remarqué, c'est un domaine fascinant qui attire beaucoup d'activités et qui fait peur aussi, qui fait peur aux gens qui ne connaissent pas le domaine. Et il y a des tendances à développer cette peur à travers plusieurs conférences, plusieurs papiers, plusieurs livres, plusieurs films, et ainsi de suite. Et là, le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'il y a en réalité deux populations distinctes, qui parlent de deux choses complètement différentes. D'un côté, vous avez les scientifiques, les ingénieurs qui développent des techniques à base d'outils mathématiques, statistiques, pour fournir des systèmes d'aide à la décision, de prise de décision pour des tâches bien précises. Et vous avez de l'autre côté, on trouve les amoureux de la science-fiction, par exemple, qui utilisent le terme intelligence artificielle pour évoquer une machine dotée d'une intelligence et d'une conscience comparable à l'homme, à l'être humain. Donc il y a quand même un écart très important entre ces deux visions, et ces deux visions, ils peuvent évidemment coexister, mais le problème, c'est qu'ils génèrent ou ils engendrent plutôt une confusion qui se résume par exemple par l'idée que l'intelligence artificielle va produire dans le futur proche une intelligence qui va dépasser l'intelligence humaine. Donc l'objectif de cette conférence est de vous montrer vraiment la réalité, mais de l'intérieur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à partir des personnes qui fabriquent cette intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a reçu pas mal d'intérêt suite à des résultats spectaculaires qu'on observe actuellement avec le développement technologique. Si je prends par exemple le cas d'un smartphone, personne ne pensait il y a quelques années que sur un appareil, on peut réunir plusieurs activités, téléphone, journal, orientation, réveil, tout. Donc dans un seul appareil, on peut regrouper plusieurs appareils pour faire la même chose. Et d'ailleurs, les smartphones, maintenant, on les utilise plus pour téléphoner. Donc à l'origine, c'était pour téléphoner. On l'utilise pour faire autre chose, pour consulter notre mail, pour envoyer des SMS, pour envoyer des fax, plein de choses comme ça. Donc on s'est éloigné un peu de l'objectif initial de cet appareil-là, avec une richesse d'activités et d'outils proposés aux utilisateurs. Sur ce graphique-là, il est très intéressant parce que ça montre quelque chose qui est caché. Donc, sur les smartphones, on a pas mal de services offerts. Donc les utilisateurs, ils sont conscients que ça existe, mais ils ne les utilisent pas forcément. Donc ça c'est très intéressant à le faire remarquer, parce que ça veut dire qu'on est en train de développer parfois des outils qui ne servent à rien, tout simplement. Voilà, pour vendre. Donc on a laissé l'utilisateur à côté, même si on dit de temps en temps qu'on pense d'abord à l'utilisateur pour fabriquer l'outil, c'est pas toujours vrai. On propose un outil pour intéresser l'utilisateur. Donc ça se voit clairement dans ce graphique-là, parce que les personnes qui utilisent les smartphones sont conscients que tel service existe, mais ils ne sont pas vraiment intéressés ou ils ne l'utilisent pas. Ils ne trouvent pas d'intérêt pour ça. Donc ça, c'est seulement le smartphone. Mais les résultats spectaculaires de l'intelligence artificielle qu'on a observés ces dernières années, c'est au niveau du traitement de la langue naturelle, donc tout ce qui est traduction automatique. Là, c'est impressionnant parce qu'on est passé de systèmes qui étaient basés sur un ensemble de grammaires sophistiquées, des schémas, des graphes compliqués pour faire fonctionner ensemble, à des systèmes qui n'ont pas besoin de toutes ces informations explicites, mais qui ont besoin d'exemples, tout simplement, d'une langue avec la correspondance dans une autre langue, tout simplement. Et le système apprend à faire la correspondance entre les différentes langues en créant sa propre grammaire et ses propres règles syntaxiques. Et ça, c'est impressionnant à observer et ça donne vraiment des résultats qui dépassent les performances humaines. On peut avoir des systèmes qui peuvent traduire dans plusieurs langues. Donc, vous avez déjà testé des outils sur Internet proposés gratuitement et qui font de la traduction de très bonne qualité. Et ces systèmes s'améliorent au fur et à mesure qu'on les utilise. Et c'est ça ce qui est intéressant. Ils s'auto-corrigent grâce à un apprentissage en permanence. Donc là, j'ai donné un exemple du produit qui était proposé par Google. Ben, c'est des oreillettes, on les met sur nous et on parle notre langue. Et la personne avec qui on parle sa langue et la traduction se fait simultanément. Donc là, ça va nous pousser à ne plus apprendre les langues étrangères, mais acheter par exemple des outils comme ça. Donc ça va casser un peu des choses qu'on sait faire et peut-être développer d'autres choses. Peut-être se concentrer plutôt sur la culture du pays qui parle cette langue-là, au lieu d'apprendre que la langue, tout simplement. D'autres exemples, et ça c'est vraiment, ça m'a impressionné en tant que scientifique, c'est qu'on est maintenant capable de développer des systèmes à base d'intelligence artificielle qui peuvent isoler votre voix dans une foule. Donc là, il y a plusieurs personnes qui parlent, j'ai besoin seulement de la voix de telle personne.
I'm not a fan of flying. I hate being on planes.
She might say,
try
so
noises. You know what I mean? I won't flush the toilet on an airplane because of the noise. Like, it scares me. You go, you hit flush, then you turn around, nothing happens for 5 seconds. Then out of nowhere, boom! Boom! Oh my God! I just put a hole in the plane.
It's sitting up. It's terrifying. It is like a little UN meeting on wheels every time you get on it.
Alors ça paraît facile, mais c'est très difficile pour une machine de séparer ces sources mélangées, mixées comme ça. C'est très difficile et quand on a plusieurs personnes qui parlent, vous voyez, la machine ne voit qu'un seul signal. Dans ce signal-là, elle doit isoler la voix d'une personne bien précise. Et bien, la machine arrive à le faire et ça c'est vraiment impressionnant comme résultat à base de systèmes de ce type-là, donc les systèmes que je vais expliquer tout à l'heure, des systèmes à base de réseaux de neurones artificiels qu'on appelle actuellement des systèmes à base de deep learning ou apprentissage profond. Donc vous allez voir que ce sont des systèmes sur le fond, des systèmes très simples, mais capable de faire des choses vraiment complexes. Un autre domaine où il y a eu des résultats impressionnants, c'est le domaine toujours de l'image, la segmentation de l'image. Donc j'ai une image et je dois la découper en plusieurs objets pour essayer de les reconnaître séparément, un par un. Par exemple, là, j'ai une image où il y a des voitures, des vélos, et je peux détecter dans l'image où se trouve la voiture, où se trouve le vélo. Et c'est ce type de système sont aussi utilisés en médecine pour segmenter des images médicales. Et dans le cas là, de la scène que j'ai montrée au début, on peut l'utiliser pour guider les voitures autonomes, par exemple. Donc, on a un système qui utilise ces réseaux de neurones artificiels capables de segmenter l'image et suivre les images, les objets dans ces images-là, en donnant leur position, leur taille, leur type aussi. Est-ce qu'il s'agit d'une voiture, un vélo, un piéton, et ainsi de suite. Donc ces informations-là, elles sont intégrées dans la voiture autonome pour la guider et lui permettre de trouver son chemin sans provoquer d'accident. même s'il y a eu quelques accidents. Donc tout n'est pas parfait, mais on est sur la bonne voie pour ce type d'application. Et je vais donner quelques exemples de systèmes à base d'apprentissage qui permettent de faire ça. Et vous allez voir que derrière, il n'y a rien de compliqué à voir. Alors, un autre domaine où les résultats sont aussi très spectaculaires, c'est le domaine médical, en diagnostic médical. Les performances des systèmes à base d'intelligence artificielle dépassent les performances des spécialistes dans ce domaine-là. Là, il n'y a rien à montrer. C'est clair et net. Un spécialiste, par exemple, pour la détection des tumeurs du cancer du sein, ne peut pas faire l'équivalent d'un système à base d'intelligence artificielle. Le système à base d'intelligence artificielle fait moins d'erreurs que le spécialiste. Par contre, si je combine les compétences du spécialiste et du système d'intelligence artificielle comme un système d'aide à la décision et pas un système de décision, là, je gagne encore en performance et je baisse de beaucoup les performances au niveau de l'erreur. Vous voyez, on baisse complètement à 0,5% l'erreur. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que aux États-Unis, il y a un logiciel qui a été développé pour détecter les personnes atteintes de rétinopathie des diabétiques. Et dans 87%, plus de 87%, le système a donné la bonne réponse. Et dans 89,5%, il a donné aussi la bonne réponse quand le patient n'était pas atteint de cette maladie. Alors, par conséquent, ce système-là a été autorisé à l'utilisation dans les hôpitaux, donc sans la présence d'un spécialiste du domaine. Donc quelqu'un du domaine médical, une infirmière, peut l'utiliser parce que ce système-là, non seulement il prend les images et les analyses, mais il génère aussi un compte-rendu avec une analyse très fine qui suffit seulement de lire et de comprendre de quoi il s'agit. Donc il est capable de prendre l'image, l'analyser, la segmenter et sortir le compte-rendu, je dirais, plus détaillé qu'un spécialiste. Donc ça, c'était autorisé aux États-Unis à l'utilisation directement, vu ces performances qui sont très, très intéressantes. Un autre domaine, pour vous donner quelques idées sur les domaines où on arrive à faire des choses très intéressantes et utiles quand même. Donc, par exemple, le sous-titrage automatique des images. Donc, on donne au système des images et le système essaie de les étiqueter, de les labelliser, d'écrire ce qu'il y a dans ces images-là. Vous allez dire, c'est pas très intéressant comme application, mais pour les non-voyants, ça serait très intéressant parce qu'en décrivant ce qu'il y a dans l'image, je peux fournir cette information à un synthétiseur qui va transformer le texte en voix et le non-voyant, il va vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'image qu'il a reçue ou qu'est-ce qu'il y a sur l'image qu'il consulte. Donc ça, ce sont des applications très intéressantes, faciles aussi à mettre en œuvre, parce que le système, il a appris quoi ? Il a appris à segmenter l'image, comme tout à l'heure avec les voitures, les vélos et les piétons. Il segmente et il apprend à reconnaître l'objet, à l'identifier. Une fois qu'on lui donne une autre image, il essaie de généraliser, donc de se rappeler ce qu'il a déjà appris, pour essayer de l'adapter à l'image qu'on lui propose. Donc ça, ce sont des applications séduisantes. Alors l'application qui a fait beaucoup de bruit, évidemment, c'est l'AlphaGo, qui a supplanté tous les champions de ce jeu-là. Donc en 3 heures, on a remarqué que l'AlphaGo, donc c'est la première version de départ, il a appris les règles du jeu de Go tout seul, à partir de plusieurs exemples, tout simplement. En 70 heures, il atteint le niveau d'un excellent joueur. Ça, pour un être humain, ça ne suffit pas, 70 heures, pour devenir un excellent joueur de Go. En 3 jours, il a battu AlphaGo 0, qui était proposé initialement avant cette édition, et qui a déjà battu un joueur professionnel. Donc ça veut dire qu'il peut battre aussi ce joueur professionnel. Et au bout de 21 jours, il a égalé AlphaGo Master, qui est une version sophistiquée, et qui a battu le champion du monde. Et en 40 jours, il a supplanté toutes les intelligences artificielles. Donc toutes les versions qu'on a proposées auparavant, il les a dépassées. Et il a joué, en quelque sorte, 29 millions de parties pour devenir le meilleur dans pour ce jeu-là. Donc là, pour... comme performance, ce sont des performances qui dépassent vraiment la capacité d'un être humain. Et il n'y a pas de notion de fatigue, rien. Il peut jouer 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7, sans se fatiguer. Tant qu'on lui fournit de l'énergie, évidemment. Alors maintenant, tout ça c'est très beau, mais on parle d'intelligence. Mais est-ce qu'on a vraiment raison de parler d'intelligence à ce niveau-là ? Parce que l'intelligence, déjà, en général, c'est une notion très difficile, à mon avis, à définir. Parce que est-ce que l'intelligence veut dire apprendre, c'est-à-dire extraire et acquérir des connaissances ? Est-ce que ça veut dire raisonner, déduire, anticiper ? Est-ce que ça veut dire posséder une histoire ? Une conscience, des sentiments, est-ce que c'est tout ça? Ou est-ce qu'on est vraiment encore loin de la définition exacte de l'intelligence? Alors tout simplement, c'est difficile de définir ou donner une définition unique à l'intelligence, tout simplement parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence déjà. D'accord? L'intelligence, il ne faut pas la réduire à l'intelligence logico-mathématique. Ça n'a aucun sens. L'intelligence existe partout, dans tous les domaines. Il y a plusieurs types d'intelligence. Un prix Nobel est intelligent, un boulanger aussi est très intelligent. Partout, quand on retrouve toutes les activités de l'être humain, on trouve qu'il y a une intelligence très différente de l'intelligence qui existe ailleurs. Donc déjà, au niveau... intelligence tout simple, on n'arrive pas à trouver une définition correcte et standard. Alors quand on passe dans le monde artificiel, ça se complique encore, parce qu'on peut s'éloigner de la notion d'intelligence. Donc l'intelligence, on peut essayer de la regrouper autour d'un ensemble de facultés mentales, d'accord, qui permettent de comprendre les choses, de découvrir des relations entre des choses, de parler, de s'adapter, d'innover, de créer. Mais ce qui est intéressant quand on regarde l'évolution de cette définition d'intelligence dans les dictionnaires, elle suit le temps aussi. Donc la définition de l'intelligence dans tous les dictionnaires évolue dans le temps. Elle change à chaque fois, elle change parce qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire l'intelligence, et donc on essaie de modifier la définition et de l'adapter à notre compréhension. Et donc c'est une définition qui reste dynamique. Et la définition du terme artificiel, ça c'est très facile. L'artificiel, on va le définir par tout ce qui n'est pas naturel et qui est fabriqué par l'homme. Donc ça va. Et le mot qui ne pose problème, c'est plutôt le mot intelligence. Donc comment on peut définir l'intelligence artificielle, ou qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle consiste à concevoir des ordinateurs qui pensent? Est-ce que l'intelligence artificielle revient à automatiser des activités qui associent la pensée humaine et la prise de décision et l'apprentissage? Est-ce que c'est un art de créer des machines qui exécutent des fonctions qui nécessitent une certaine intelligence? Est-ce que c'est une étude des facultés mentales et l'utilisation de modèles? Il y a plein de questions, je peux continuer la liste pendant plusieurs heures, et ça ne donne pas la définition de l'intelligence artificielle, mais ça nous donne des questions qui montrent la difficulté de définir de manière précise l'intelligence artificielle, parce que même les pionniers du domaine n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une seule définition, une seule vision de l'intelligence artificielle. Parce que le mot intelligence artificielle, ou la première définition, est née dans les années 50, lors d'une conférence d'Dartmouth, et qui était présidée par un des pionniers du domaine, McCarthy. Et la définition a été donnée par Minsky, qui nous dit que l'intelligence artificielle est la science qui consiste à faire faire à des machines ce que l'homme fait moyennant une certaine intelligence. Donc c'est très bien, mais ça ne me définit pas exactement, parce que moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence. Donc c'est une définition qui tourne en rond pour moi. Oui, parce que si je savais qu'est-ce que c'était l'intelligence, je pourrais définir facilement l'intelligence artificielle. Et le problème de cette définition-là, c'est qu'il rajoute une couche et il dit que la question n'est pas de savoir si les machines peuvent avoir des émotions, mais la question est de savoir s'ils peuvent être intelligentes sans émotions. Là aussi, ça ne nous aide pas trop, parce que c'est une définition, à mon avis, récursive, qui tourne en rond, sans trop donner de signification, parce que cette définition, qui est une définition historique, exclut des domaines clés et majeurs de l'intelligence artificielle. La perception, la robotique, la compréhension du langage naturel, le sens commun, tout ça, c'est exclu. Donc, cette définition sous-entend dans la bouche de Minsky que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence logico-mathématique, tout simplement. D'accord ? Donc, il réduit complètement cette définition logico-mathématique correspond à la réalité, à mon avis. Évidemment, il y a Turing qui a précisé des choses. Il a dit que les composantes d'un tel système doivent avoir des connaissances, c'est la base de l'intelligence, le raisonnement, la compréhension et le langage naturel et l'apprentissage. Donc, ce sont les fondamentaux de tout système d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, si on la compare avec l'intelligence, on peut voir l'intelligence comme un ensemble d'acquisition de connaissances, de capacités à percevoir, sentir, comprendre, traiter, communiquer, juger, apprendre, s'adapter, je rajouterai, innover, créer, ainsi de suite. Et l'intelligence artificielle, si je dois donner une définition simple, c'est tout simplement un domaine interdisciplinaire, et on va le voir que c'est un domaine qui fait appel à plusieurs sous-domaines pour résoudre des problèmes simples, je répète, simples, et qui nécessitent des connaissances bien définies, donc bien ciblées et bien définies. Mais la définition de l'intelligence artificielle qui a ma préférence, c'est celle d'un ensemble d'algorithmes. Donc un algorithme, une suite d'instructions finies et qui donne un résultat, reçoit une entrée et produit un résultat. Donc l'exemple simple d'un algorithme, c'est une recette de cuisine, c'est un algorithme. Voilà, c'est une suite, voilà, on commence comme ça, on fait ça, et après ça, et après ça, et on arrive à un résultat. Et donc, pour moi, ça va être un ensemble d'algorithmes qui vont permettre à une machine ou un ordinateur de prendre une décision en se basant sur un historique de connaissances, d'accord, mémorisé. Et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est celle de ce type de machine et qui ne savent prendre de décision qu'en piochant dans des connaissances déjà mémorisées. D'accord ? Donc il n'y a pas d'invention, il n'y a rien, il n'y a pas de création, même si parfois on parle de création, des réseaux de neurones qui créent, mais si on fouille un petit peu, on verra qu'il y a des calculs derrière. Je pense que l'être humain, quand il crée quelque chose, d'abord, c'est très difficile qu'il puisse expliquer comment il a trouvé ça. Quand je trouve quelque chose d'une manière intuitive, je suis incapable de l'expliquer, comment je l'ai trouvé. C'est ça l'intuition. Ces systèmes d'intelligence artificielle, ils n'ont pas cette capacité. Ils n'ont pas d'intuition pour moi. Voilà. Donc, Et autre chose, c'est que si on compare ces systèmes à un être humain, à mon avis, l'être humain, quand il prend une décision, il intègre des émotions dans cette prise de décision. Et alors qu'un processeur électronique, c'est pas possible. Il prend une décision, mais en se basant sur quelques calculs, mais il n'y a pas d'émotion là-dedans. Alors, maintenant, il y a une confusion compétence et performance. Donc, ce sont des systèmes très performants, d'accord ? Et on verra pourquoi ils sont performants. Si on regarde un peu ce qu'a dit Chomsky, quand il a dit, pour ces systèmes-là, il faut faire comme ou faire aussi bien que. Donc ça, c'est une distinction. Et quand on regarde le domaine de l'aviation, par exemple, l'homme a toujours aimé voler. Il a essayé au début d'imiter les oiseaux, le vol des oiseaux. Il n'a pas réussi. Et les pionniers de l'aviation, ils ont abandonné cette idée d'imiter les oiseaux. Ils sont plutôt dirigés vers une analyse en termes d'écoulement d'air et de pression. Et du coup, ils ont inventé des avions, donc des outils artificiels, qui dépassent les performances des oiseaux. L'avion vole plus vite qu'un oiseau. Et par contre, il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance très éloignée de la réalité. On n'a pas imité, on n'a pas fait comme l'oiseau, mais on a pris quelques idées et on a développé autre chose pour faire beaucoup mieux. Aller plus vite, par exemple. La même chose au niveau des jeux d'échecs. Donc, en 97, quand le champion du monde, Kasparov, a été battu par l'intelligence artificielle développée par IBM, Deep Blue, ça ne veut pas dire que ce Deep Blue est plus intelligent que Kasparov. Parce que Deep Blue n'a pas utilisé d'intelligence, il a utilisé des connaissances mémoriser des connaissances stockées. Il a stocké en quelque sorte plusieurs types de parties dans sa tête, enfin dans ses mémoires. Et quand il voit devant lui une situation, il cherche dans cet historique-là quelle est la réponse gagnante, tout simplement, et il la joue. Et c'est comme ça qu'il a dépassé les performances de Kasparov. Kasparov, il fait pas ça. Il construit la solution gagnante en temps réel, en fonction de ce qu'il voit. Le Deep Blue, il procède différemment. Donc on ne peut même pas dire qu'il a réfléchi. D'ailleurs, Deep Blue ne sait même pas qu'il joue aux échecs. Comment il peut... Donc il est vraiment loin de Kasparov. Kasparov, c'est un champion, il sait qu'il est maître dans ce jeu-là, mais Deep Blue, c'est un ensemble de circuits électroniques qui n'ont aucune conscience. La même chose pour le système qui était proposé toujours par IBM, Watson, qui a battu des records dans le jeu télévisé qui ressemble un peu au jeu question pour un champion. Là, on donne la question et le système doit deviner. Non, on donne la réponse plutôt et on demande au système de deviner la question. Donc, il faut vraiment avoir une culture générale très, très, très large. Et bien, le système a battu les grands champions et ça ne signifie pas que Watson a une culture générale non plus. Il a stocké, il a mémorisé des connaissances et il a utilisé la puissance de calcul et de recherche rapide pour trouver à chaque fois la bonne réponse. Voilà. Donc tout ça, c'est quand on ne sait pas comment ces systèmes ils sont faits, on pense à des systèmes intelligents parce qu'ils dépassent. Je répète que la performance ne signifie pas l'intelligence. Donc, si je compare maintenant l'ordinateur ou la machine avec l'humain, un ordinateur peut faire beaucoup de choses mieux que l'être humain. Ça, y a pas d'opposition. Il peut additionner des milliers de nombres à quatre chiffres plus vite qu'un être humain. Il peut dessiner des choses complexes, des images 3D. Il peut stocker et récupérer des quantités massives de données en un temps record. Par contre, il y a des choses que l'humain peut faire beaucoup mieux que la machine. Et c'est là où la différence se situe. C'est un ordinateur ne peut pas à mon avis, avoir de l'imagination, de la création, de l'intuition, de l'improvisation. Ce n'est pas possible. Même si on vous montre des systèmes capables de faire ça, c'est vraiment bien programmé et bien fait pour faire semblant que c'est naturel. Donc un ordinateur, par exemple, il est incapable de trouver le chat dans cette image-là. Un être humain, quel que soit l'âge, il trouvera le chat. Un ordinateur est incapable de distinguer entre les deux images à droite. Il va dire que c'est pratiquement la même chose. Alors que c'est évidemment deux choses différentes. Là, on a un portrait et là, on a un plat. Et bien, la machine ne peut pas distinguer entre ces choses-là. Quelle que soit sa puissance, elle a des limites. Donc, c'est là où l'intelligence réelle joue. Parce que l'être humain utilise d'autres processus, d'autres types d'analyses qu'on n'arrive pas à décrire nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure pour l'intuition. Quelque chose trouvé d'une manière intuitive, difficile d'expliquer comment. C'est vraiment difficile. Et le jour où ces systèmes auront de l'intuition, là, on pourra se poser la question. Donc, en général, on distingue deux types d'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle dite forte et l'intelligence artificielle dite faible. Tout ce que vous voyez aujourd'hui représente l'intelligence artificielle faible. C'est-à-dire, c'est une intelligence artificielle qui essaye de mettre au point des systèmes d'aide à la décision pour résoudre des problématiques bien ciblées et bien précises. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qui s'approche de l'être humain, c'est-à-dire dotée d'une conscience capable d'émotion. Et cette intelligence vraiment suscite l'espoir d'horizons nouveaux et la peur aussi de la supériorité sur l'homme. Donc, pour vous rassurer tout de suite, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. D'accord ? Donc, c'est une intelligence, donc l'intelligence artificielle que je vais présenter et que vous voyez dans les médias, ce sont des intelligences artificielles dites plutôt faibles. Et l'autre intelligence est vraiment très très loin à atteindre et voire impossible à atteindre pour plusieurs raisons que je citerai par la suite. Donc même comme ça, l'IA, l'intelligence artificielle, reste toujours difficile à définir parce qu'on ne sait pas vraiment comment définir la notion initiale de l'intelligence. Et on reste bouclé. Alors, l'histoire rapide de l'intelligence artificielle, ça a démarré dans les années 40-50. Donc, les années 40, en 1943, le premier modèle mathématique du neurone biologique a été proposé par Marc Kulok et Pitts. C'est un modèle très simplifié du neurone biologique. Ce sont des neurologues et des mathématiciens. Ils se sont réunis. Ils ont observé le fonctionnement du neurone biologique. Ils ont essayé de développer un modèle mathématique qui décrit ce fonctionnement. Bon, le fonctionnement du neurone biologique est tellement complexe qu'on a essayé de proposer plutôt un modèle simple, très simple, et qui utilise seulement une macro-imitation du neurone biologique. Et donc, plusieurs choses qui sont suivies après cette modélisation mathématique du neurone biologique. Le premier modèle, c'était le perceptron. Donc, c'est une machine qui apprend à reconnaître des objets à partir de données sous forme d'images ou autres. Donc, mais ce système-là a montré des faiblesses et des limitations vers les années 60. Et d'ailleurs, cela a fait plaisir à Minsky, qui a montré que ces systèmes-là sont très limités et qu'ils ne peuvent pas résoudre n'importe quel problème. Et ça a donné un coup d'arrêt aux recherches dans ce domaine-là. Donc, les gens ils ont commencé à s'éloigner de ce type de réflexion. Et ça a duré très, très longtemps, jusqu'aux années 80. Dans les années 80, on a commencé à avoir des outils mathématiques et algorithmiques pour entraîner des systèmes capables de faire des choses sophistiquées. Et donc c'est là où on a eu la redécouverte d'un algorithme classique dans le domaine qu'on appelle la rétropropagation du gradient. C'est un algorithme qui est basé sur... qui permet de minimiser l'erreur commise par ces systèmes d'apprentissage en modifiant les paramètres de ce système, tout simplement. Et évidemment, il y a plein d'outils et d'objets qui ont été proposés dans le domaine. Et vous avez ici la liste. Pour une remarque, c'est que l'ancêtre des agents conversationnels qu'on voit aujourd'hui, comme Alexia, Tai, tout ça, c'est Elisa. Elisa qui était proposée, vous voyez, en 1964. Donc ce n'est pas une nouveauté, comme vous voyez les agents conversationnels d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, ça existait. C'était à l'époque sous forme de texte, donc on tapait, on développait un dialogue avec cette machine-là à travers des phrases tapées sur machine. Et l'idée derrière, c'est que cette machine-là utilisait des mots que l'utilisateur utilise dans son message pour montrer une façon de dialogue naturel. Donc c'était artificiel, mais à l'époque, ça paraissait impressionnant. Bon, maintenant, on fait encore mieux avec les agents conversationnels parce qu'on a accès à d'autres types d'informations, d'autres connaissances, et on a d'autres outils pour les développer. Ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit au départ, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine pluridisciplinaire. Donc on réduit l'intelligence artificielle à une seule technique qui est le deep learning, mais ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle, c'est plus que le deep learning, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai que le deep learning est apparu comme une approche qui offre des performances spectaculaires dans le domaine, surtout le domaine de l'image, mais il y a d'autres domaines qui font partie de l'intelligence artificielle et qui proposent aussi des solutions. Donc ça va de domaine de la vision, la reconnaissance des formes, à l'aide à la décision, la robotique, traitement du langage, le raisonnement, la représentation de connaissances, ainsi de suite, avec des interactions avec d'autres domaines. Donc on a plusieurs sous-domaines dans le domaine de l'intelligence artificielle, et le deep learning ou l'apprentissage profond qui montre ses performances ces dernières années, c'est tout simplement un sous-domaine de tout l'univers de l'intelligence artificielle. Et même le deep learning ou l'apprentissage profond, c'est une nouvelle façon de faire de l'apprentissage automatique. Et dans l'apprentissage automatique, on trouve aussi d'autres types d'apprentissage qui sont différents de l'apprentissage profond. Donc l'apprentissage profond, c'est une nouvelle façon de faire de l'apprentissage automatique, et l'apprentissage automatique, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est un domaine pluridisciplinaire et très riche. Il y a beaucoup plus de choses dans ce domaine-là que ces réseaux de neurones artificiels. Alors, maintenant, pour conclure cette première partie, les objectifs de l'intelligence artificielle, on peut les regrouper en deux parties. Des objectifs scientifiques, donc au départ de ce domaine-là, les scientifiques cherchaient à comprendre le mécanisme de l'intelligence, le fonctionnement du cerveau humain. Et pour faire cela, ils ont décomposé des comportements intelligents en sous-tâches pour les étudier séparément. Donc l'objectif principal, c'était la compréhension du mécanisme de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est plutôt un objectif d'ingénierie. On ne cherche pas à comprendre le fonctionnement du cerveau quand on développe un agent conversationnel, mais c'est plutôt développer des systèmes et des outils utiles pour nous aider dans la vie de tous les jours. Donc on s'est éloigné de l'objectif initial. L'objectif initial des années 50, c'était la compréhension du fonctionnement de l'intelligence et du cerveau. Et maintenant, aujourd'hui, pas du tout. On fabrique des choses qui utilisent une certaine vision de l'intelligence pour nous aider, tout simplement. Donc on s'est éloigné, on est passé d'un objectif de compréhension à un objectif d'utilité. Et ça, ça a joué beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle. Parce que les définitions qui existent montrent qu'il y a une difficulté à reproduire l'intelligence humaine. Mes recherches, personnellement, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de comprendre les principes mathématiques et algorithmiques sous-jacents à l'intelligence humaine ou animale pour développer des concepts ou des outils de prise de décision. Vous voyez? Et pour cela, la base de l'intelligence, c'est la connaissance. Donc, comment je peux présenter à une machine un ensemble de connaissances? D'accord? Et ça, c'était la problématique ou le défi depuis les années 50. On ne savait pas comment traduire les connaissances dans la machine. Au début, on a essayé de traduire ces connaissances sous forme de règles, de faits et des procédures au système. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce qu'il y avait des connaissances qu'on ne pouvait pas décrire sous forme de règles. D'accord? Comment on fait? Donc l'alternative, c'était de développer des approches d'apprentissage, c'est-à-dire montrer au système des exemples et le laisser découvrir les règles lui-même, découvrir les règles de décision lui-même, mais à partir d'observations, comme un être humain. Et c'est là où l'apprentissage automatique s'est développé, et surtout dans le domaine de l'image et de l'audio. Alors, l'IA moderne d'aujourd'hui, évidemment, utilise ces techniques d'apprentissage, c'est pour cela qu'on parle plus de l'apprentissage profond ou pas profond que d'autres approches d'intelligence artificielle. Parce que ce sont des systèmes qui ne nécessitent pas un formatage de la connaissance sous forme de règles dès le départ. On donne au système les données brutes. Et c'est lui qui va découvrir ces règles. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc ça nécessite beaucoup moins d'expertise que dans les autres approches classiques. Et la première question, donc les connaissances, on va les trouver où? Ben, dans les données, tout simplement. Si je cherche à segmenter des images, ben, je vais prendre plusieurs images. Je cherche à faire un système qui reconnaît des chats, ben, je prends beaucoup de photos de chats et je lui montre, tout simplement. Donc c'est dans la donnée. Il faut que la donnée soit riche, c'est-à-dire qu'il elle représente la problématique que je cherche à résoudre. Je ne vais pas demander au système de reconnaître un chat alors que je lui ai montré des photos de chiens. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que les données soient en cohérence avec la problématique qu'on cherche à apprendre. Donc, rapidement, je n'ai pas utilisé de formule mathématique. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'apprentissage? Donc, ça fait fantasmer, mais qu'est-ce que c'est? Imaginez, j'ai un problème à résoudre. C'est-à-dire que j'ai dans un récipient de l'eau, dans différents états, et je voudrais savoir si l'eau se trouve dans l'état glace, liquide ou vapeur. Donc, j'ai trois possibilités. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mesurer des caractéristiques. Donc, pour résoudre mon problème, je vais proposer deux caractéristiques, la température et la pression. Donc, je mesure à chaque fois dans le récipient la température et la pression et je la note. Donc, je fais plusieurs mesures en fonction de l'état de l'eau qui se trouve dans le récipient et j'obtiens plusieurs mesures. Donc, les plusieurs mesures sont représentées par des points dans l'espace température et pression. Donc c'est cet espace-là de mon problème où j'ai des mesures. Donc j'ai récolté plusieurs mesures de l'eau qui se trouvait dans le récipient. Et je constate qu'il y a quand même un regroupement en trois états. Les trois états, donc glace, liquide, vapeur. En fonction de la position dans cet espace-là, je peux savoir si l'eau dans le récipient est dans l'état glace, liquide ou vapeur. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Alors, comment je vais le faire? Ben, je vais essayer de dessiner la frontière entre ces classes-là, cette frontière dont je ne les sépare. Donc là, je l'ai fait à la main, mais le système d'apprentissage, son rôle, c'est de me trouver ces frontières-là automatiquement. D'accord? Je lui donne que les données, donc les points de l'espace, et je lui dis, ben, maintenant, trouve-moi la séparation entre ces classes. Comment tu peux séparer? S'il arrive à trouver les frontières entre les classes, il serait capable d'identifier un état donné. Je lui donne des nouvelles mesures de température, de pression. Puisqu'il connaît la frontière entre les trois états, il pourra me dire c'est tel état. Et les mesures que tu m'as proposées à l'entrée correspondent à tel état. C'est-à-dire quand je suis là, J'ai une mesure que je viens d'effectuer et je demande au système, bah, quel est l'état de cette mesure-là? Ben, lui, il va me répondre, bah, c'est l'état vapeur. Alors, le système d'apprentissage, c'est quoi? Il va apprendre l'association entre l'état et les mesures que je lui donne à l'entrée. Donc, j'ai fait plusieurs mesures, j'ai un échantillon. Cet échantillon s'appelle la base d'apprentissage ou les exemples d'apprentissage. Donc, je le mets à l'entrée. Et le système, on peut le voir comme un système avec plusieurs boutons de réglage. Il va régler ses paramètres, schématisés ici par les boutons, pour trouver à chaque fois la bonne réponse. La bonne réponse, c'est-à-dire la probabilité pour qu'il soit glace, liquide ou vapeur. D'accord ? Donc au début, évidemment, puisqu'il ne sait pas comment régler ces boutons-là, il va donner n'importe quoi comme réponse. Et l'algorithme d'apprentissage consiste à l'aider à réduire cet écart-là entre sa réponse, vous voyez, sa réponse trouvée, et la bonne réponse. Donc, je lui présente la bonne réponse. Je lui dis, si je te présente ça, il faut me répondre ça. Mais lui, il répond ça. Donc, il y a un écart. Et bien, l'algorithme d'apprentissage va l'aider à réduire cet écart-là en modifiant ces deux boutons-là, les paramètres. Il va les tourner dans un sens ou dans un autre pour que la prochaine fois, il se rapproche beaucoup plus de cette réponse-là que celle-là. Et c'est ça l'apprentissage. Un système d'apprentissage, c'est une boîte où il y a plusieurs paramètres et qu'on présente à l'entrée de cette boîte-là des exemples, des observations, et à la sortie, il donne une décision. Et il apprend une fonction d'association entre l'entrée et la sortie. Vous voyez ? Alors, ce type d'algorithme est utilisé pour, par exemple, dans les réseaux profonds, les deep learning. Là, par exemple, j'essaie de faire un système capable de reconnaître les chiffres de 0 à 9. Donc, j'écris le chiffre à l'entrée. Donc, vous voyez le chiffre que j'écris, c'est une image en degrés de gris. Mais le système, il voit des valeurs numériques. Il ne voit pas l'image. Il voit des valeurs numériques, c'est cette valeur-là. À partir de ces valeurs numériques, donc je le présente au système, il va faire des calculs internes. D'accord ? Chaque couche, ce qu'on appelle une couche de neurones artificiels, donc ça, c'est un réseau de neurones artificiels, il est composé d'unités élémentaires, donc le modèle de tout à l'heure du neurone formel, c'est tout simplement un calculateur simple qui reçoit des entrées, il fait des transformations en interne et produit une réponse. Donc je mets plusieurs neurones de ce type-là pour former une couche et je fais plusieurs couches et je les connecte à travers des connexions qui portent des valeurs. Ces connexions qui portent des valeurs représentent les paramètres du système. C'est ces paramètres-là que le système doit ajuster pour trouver la bonne réponse. D'accord ? Donc, il va stocker sa connaissance, ses règles qu'il va découvrir dans ces connexions-là. D'accord ? Ils sont connectés. Donc, quand je présente l'image, il va faire plein de calculs élémentaires et il va trouver la bonne réponse. Alors, comment il travaille à l'intérieur, c'est impressionnant et c'est ça qui fait sa puissance. C'est que quand je présente un chiffre, par exemple, là, le chiffre 9, il va le présenter à la première couche qui va faire des transformations pour trouver des morceaux de ce chiffre-là, en quelque sorte. Il va détecter dans cette image-là des morceaux qui reviennent à chaque fois que je lui présente un 9, il trouve ce morceau-là. Donc il va essayer de trouver le moyen pour extraire ces morceaux. Ça s'appelle des traits ou des features. Donc, et à partir de ces traits-là, il va essayer dans les couches qui suivent de reconstituer l'image de départ. Donc, vous voyez l'image de tout à l'heure, le 9, il décompose en plusieurs morceaux, donc les morceaux de différentes couleurs ici. Et une fois qu'il a trouvé dans cette couche-là, il va essayer de combiner ces morceaux-là pour retrouver l'image de départ. Donc il va reconstituer l'image à partir de ces traits-là, mais à partir de traits de haut niveau, d'un autre niveau. Donc vous voyez ici au début, il a trouvé des morceaux du chiffre 9 de petite taille. Après, il va combiner ces caractéristiques pour retrouver des morceaux de grande taille jusqu'à la fin où il va reconstituer complètement le chiffre. Et à la fin, il prend une décision. D'accord ? Donc il décompose. Alors ce qu'il faut savoir, il apprend aussi en minimisant l'erreur. Ces systèmes-là, ils ne savent faire que 3 opérations, d'accord ? Contrairement à un être humain. 3 opérations. Il sait faire une addition, multiplication, une comparaison. Rien d'autre. Donc si on peut les étiqueter comme des systèmes intelligents, c'est un peu léger. Ils ne savent faire que ça. Addition, multiplication, comparaison. Avec ça, ils arrivent à résoudre des problèmes complexes, mais parce que le concepteur du système l'aide. Le concepteur du système aide le système. Le système n'est pas conçu d'une manière aléatoire. Il est conçu avec une connaissance a priori. C'est le concepteur qui lui dit qu'il faut trouver des morceaux de chiffres à ce niveau-là, de petite taille, après de grande taille et après ainsi de suite. C'est-à-dire une représentation des objets qu'il voit d'une manière, une représentation hiérarchique. Et c'est cette représentation hiérarchique qui va l'aider à stocker d'une manière intelligente les connaissances qu'il doit acquérir pour résoudre ce problème, par exemple, de reconnaissance de chiffres de 0 à 9. Et donc là, ça donne des résultats spectaculaires, mais il y a beaucoup, beaucoup de connaissances d'experts dans le système codé sous forme d'architecture, de type de comparaison qu'il faut faire à ce niveau-là, de type de neurones utilisés, de type de combinaison de caractéristiques et ainsi de suite. Ces connaissances-là sont des connaissances d'experts et qu'on ajoute pour le système. Alors ce domaine évidemment est fascinant, mais il y a une peur qui s'installe autour de l'intelligence artificielle, mais c'est une peur qui personnellement ne me fait pas vraiment peur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une peur qui n'est pas bien fondée. Elle est fondée sur des fausses informations et fondée sur des fantasmes en quelque sorte. Vous avez déjà vu des films de science-fiction, on est vraiment très très loin de ces films-là. Ces films sont faits pour avoir le maximum de spectateurs. Évidemment, il faut qu'ils soient attractifs, fascinants, spectaculaires, sinon il n'y aura personne dans les salles. Mais si vous discutez avec des scientifiques, on est vraiment très 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 loin. Ce qui me fait peur, moi, c'est pas de croire qu'un jour un ordinateur va prendre le dessus sur nous, mais plutôt ce qui me fait peur, c'est quand on va programmer ces machines-là, on va les programmer pour qu'ils nous aident ou pour nous nuire. Donc la décision, c'est entre les mains des concepteurs de ces systèmes-là. Le système, il ne va pas se développer tout seul, c'est les concepteurs des systèmes et les financeurs de ce type d'activité qui doivent faire très attention. L'IA ne fera pas de mal à quelqu'un toute seule. C'est l'être humain. Moi, j'aurais plus peur de l'être humain que d'une machine. Parce que l'être humain, il est imprévisible. La machine, quand on sait comment elle est faite, on peut l'arrêter quand on veut. Par contre, il ne faut pas non plus mettre de côté des vraies inquiétudes sur l'intelligence artificielle. Par exemple, le premier, c'est l'impact économique dû à l'automatisation croissante et qui sera brutale parfois pour un grand nombre d'emplois. Hein. Donc, pour ne pas citer tout le monde, on parle généralement de la quatrième révolution industrielle, mais c'est une révolution qui va toucher tout le monde. Elle va toucher tous les secteurs, va toucher tous les domaines, l'éducation, la formation, tout le monde. Par exemple, si on prend l'emploi d'un chauffeur de routier, et ben ça c'est un emploi qui va pas durer longtemps, parce qu'il y a déjà des expériences qui tournent. Et moi je dirais tant mieux. En mieux, pourquoi? C'est quand même un travail fatigant. Et le chauffeur routier, il peut changer de métier. Il ne va pas disparaître complètement, on ne va pas le mettre au chômage, mais peut-être il va jouer le rôle de récupérer les camions à un certain niveau de circulation, parce que quand on commence à s'approcher de la ville, par exemple, c'est très difficile de gérer la circulation dans une ville par un système autonome. Il vaut mieux mettre un être humain. Donc, par exemple, tout ce qui est vraiment route, autoroute, on peut mettre des systèmes autonomes et au bout de l'entrée, c'est le chauffeur routier qui prend la relève. Donc son métier va changer, il ne va pas complètement disparaître. C'est comme le cas des radiologues. Quand je montre les résultats trouvés par l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, ils pensent au chômage. Mais pas du tout. Le métier du radiologue va changer complètement. Au lieu d'avoir un radiologue qui va passer beaucoup de temps à analyser l'image, il va se transformer en un radiologue qui va interpréter les résultats trouvés par l'intelligence artificielle. Il va se concentrer beaucoup plus sur les détails trouvés par ces machines-là que l'être humain est incapable de trouver. Et du coup, le résultat sera meilleur. Et donc, son rôle changera. Même personnellement, le rôle d'un professeur à l'université ou ailleurs change du à chaque jour, je ne fais plus le cours comme il y a 5 ans ou 10 ans. Je le fais différemment. Il faut l'adapter au public, il faut l'adapter au niveau de connaissance et il faut l'adapter à l'évolution de l'être humain en général. Donc il y a plusieurs types d'inquiétudes et il y a le risque aussi du biais. Et ça, c'est inquiétant et il faut faire vraiment très attention pour les systèmes automatisés qui peuvent nuire une certaine partie de la population. On a vu des démonstrations pour le système qui ne reconnaissait pas les personnes de peau noire parce que le système n'était pas entraîné avec des exemples de ces personnes-là, tout simplement. Ou tout dernièrement, le système développé par Amazon qui trie les CV des candidatures, il a éliminé automatiquement les CV des femmes. Pourquoi ? Parce que 60% des travailleurs à Amazon sont des hommes et ils ont entraîné le système sur les CV de ces personnes-là. Et donc, il y avait plus d'hommes, de CV d'hommes que de femmes. Et le système a compris, a interprété ça, que ce n'était pas la peine de regarder ces CV-là, mais plutôt les CV des hommes. Donc, heureusement, ils l'ont arrêté. Parce qu'en plus, sur les 100 CV, ils donnaient 5 CV. Ils sortaient 5 CV. Donc, c'est sûr qu'il n'y aurait aucune femme sur les 5. Donc, ils se sont rendus compte que c'était une erreur, la même chose. Un autre risque aussi, c'est d'utiliser ces techniques-là pour influencer l'opinion publique. Et là, on a eu plein d'histoires comme ça. La dernière, l'affaire Cambridge Analytica. Vous vous rappelez quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. C'était incroyable, mais vrai, voilà. Aussi, l'automatisation dans le cadre militaire, et c'est ça, c'est ce point-là qui me fait vraiment personnellement le plus peur, parce que il y a des tendances à encourager l'automatisation des armes, avoir des armes autonomes. Alors juste, je vais vous faire passer une petite vidéo
pour vous montrer un peu
l'importance de ce sujet.
Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team,
vous voyez qu'il y a des dangers. C'est pas de la science-fiction, mais c'est proche de la réalité. C'est possible. C'est une fiction possible. Possible et à la portée de n'importe qui. Ça coûte pas cher et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est vraiment des choses qui inquiètent, mais je ne suis pas venu ici pour vous faire peur, mais plutôt pour vous montrer la réalité et vous montrer qu'il y a quand même des espoirs et des progrès dans ce domaine-là qui peuvent nous intéresser, comme la croissance économique, l'automatisation et la robotique vont réduire le coût de production en industrie et vont faciliter pour certaines personnes la vie, comme à travers les véhicules autonomes ou autres. Les progrès qu'on a remarqués dans la compréhension du langage vont permettre de rendre plus facile la recherche d'informations et plus efficace et plus riche cette information, parce qu'on pourra interroger ces moteurs de recherche en langage naturel simple, pour avoir des réponses qui correspondent vraiment à nos attentes. En éducation, c'est très important, l'intelligence artificielle va jouer un rôle vraiment crucial, parce qu'on va avoir maintenant un enseignement personnalisé. On ne va pas offrir des formations massives, mais on pourra personnaliser la formation en regardant un peu le profil de chacun et adapter en quelque sorte les parcours à ces profils-là, ou plutôt mieux orienter ces profils à des parcours mieux adaptés à leur réussite. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. Et le domaine où je pense qu'il y aura beaucoup d'applications spectaculaires et vraiment intéressantes, c'est le domaine médical. Le domaine médical va vraiment bénéficier de cette technologie, mais plus que les autres domaines. On a remarqué qu'il y a le domaine comme le tourisme et la banque, tout ça profite de cette technologie d'intelligence artificielle, mais le domaine médical va utiliser cette technologie pour s'améliorer, pour changer complètement le rôle du médecin et augmenter les soins et minimiser, réduire le nombre de maladies et autres. Alors je vais vous montrer rapidement en une minute un exemple d'utilisation de cette technologie d'intelligence artificielle pour aider un chirurgien à faire une opération complexe de l'épaule. C'est une opération qui a eu lieu à l'hôpital Avicenne et par un professeur de notre université, l'université Paris 13, le docteur Thomas Grégory. Et c'est une première mondiale parce que le médecin a utilisé la technologie pour l'aider à avoir plus de précision et plus d'efficacité dans son geste chirurgical.
Tu as une sorte de rectangle, d'accord ? Et là, tu as le pilier latéral et le montage.
C'est une opération délicate, la pose d'une prothèse d'épaule. Équipé d'un casque de réalité augmentée, le chirurgien attrape l'hologramme de la reconstruction en 3D de l'anatomie de son patient et le fait glisser sur la partie à opérer. Le corps du patient devient transparent.
On est au début d'une aventure qui a un vrai intérêt médical. Standardiser les interventions chirurgicales, diminuer le risque d'erreur médicale. C'est la grande innovation, c'est que le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Alors le 5 décembre, on a fait la première intervention de chirurgie de l'épaule. J'avais accès à l'imagerie, donc aux données du patient à la demande, tout en restant tout à fait stérile.
La problématique, c'est que les fichiers médicaux viennent des scanners et des IRM et que le poids informatique de ces fichiers est assez important, ce qui les rend inutilisables, bruts dans les lunettes. Comment est-ce qu'on va donner accès à cette image au chirurgien pendant qu'il opère ?
Quand le docteur Grégory opère, les calculs sont faits sur Azure GPU. Là, le chargement est instantané puisque c'est directement dans le serveur. Il n'y a pas à transférer les données sur les lunettes. Le format, il reste dans le cloud, donc il n'y a pas de transcription d'image vers le support HoloLens. Du coup, on a facilité grandement un accès à ces données.
Le chirurgien peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du bloc opératoire, et cette personne qui est dans son bureau à l'extérieur du bloc opératoire peut voir exactement ce que voit le chirurgien grâce aux deux caméras. qui sont sur les lunettes, hologramme inclus, et pouvoir discuter, communiquer avec le chirurgien.
Avec la composante.
Et donc, vous voyez, on a augmenté les capacités du chirurgien en l'aidant avec des outils à base d'intelligence artificielle qui enrichit son environnement sans la déranger et qui lui donne la possibilité de faire des opérations plus précises et d'une manière plus efficace. Et ça c'est l'avenir de la médecine. La médecine, au lieu d'avoir sur un PC l'IRM ou le scanner, il aura vraiment la projection 3D sur le patient directement. Il voit précisément l'endroit qu'il faut attaquer et qu'il faut soigner directement sur le patient. Et ça, c'est très intéressant, et même pour la formation. Donc là, à l'Université Paris 13, on a développé un centre en collaboration avec Microsoft et l'AUF, l'Agence universitaire de francophonie, pour développer la formation à ce type de technologie. Donc on va former des chirurgiens à utiliser ce type d'outils dans leur activité. Alors, pour conclure, si, je ne sais pas si c'est une conclusion, ça c'est mon point de vue personnel sur l'état de l'art dans le domaine. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucune machine intelligente aujourd'hui, ça c'est sûr, et que ça va être très difficile de s'orienter vers une vraie intelligence, c'est-à-dire l'intelligence dite forte, et que là, en informatique, on va essayer de faire des traitements automatiques de l'information, des calculs, et l'ordinateur il pourra proposer des performances qui dépasseraient les performances humaines dans ce type d'activité, donc calcul, mémorisation. Mais la vraie intelligence, à mon avis, doit avoir vraiment une conscience pour sa propre existence. D'accord ? Un ordinateur n'apprend pas du tout. Donc même si on parle d'apprentissage artificiel ou apprentissage automatique, il n'apprend pas. Il est programmé pour exécuter des tâches bien précises et bien définies. Donc l'IA faible ne va jamais enfanter l'IA forte. Ça, c'est ma vision personnelle. Parce que l'architecture électronique des machines qui propose cette IA faible est faite de mémoire et de processeurs. Donc, et la mémoire de l'intelligence forte, c'est pas du tout ça. C'est une mémoire qui est faite de souvenirs, de processeurs d'émotions. Et sans l'émotion, à mon avis, l'IA faible ne sera jamais débouchée vers une IA forte. Parce que cette puissance, même si c'est une puissance dopée de calculateurs quantiques, même si on utilise des calculateurs quantiques, la logique électronique restera toujours une logique opposée à la logique émotionnelle qui est plutôt humaine. Et le mot de la fin, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais toute l'ingéniosité du chercheur en intelligence artificielle consiste à vous faire croire qu'elle l'est. Tout simplement. Moi, je pense plutôt qu'on va s'orienter vers une intelligence augmentée ou auxiliaire. Ça, c'est une réalité et qu'on va vivre. Parce que l'humain a besoin d'une mémoire imparfaite et qui fasse des erreurs. C'est à l'opposé d'une machine ou d'un ordinateur qui utilise une mémoire électronique précise. L'être humain fait des erreurs et c'est ça qui fait son charme, qui fait son intelligence et qui fasse des erreurs. Il apprend à partir de l'erreur. Et aucun chercheur au monde, alors je défie n'importe quel chercheur, ne sait comment on pourrait un jour concevoir une intelligence forte, capable vraiment d'initiative et de comportement comme un humain. La vraie, et pour terminer, je pense que la vraie forme de l'intelligence est de comprendre qu'on n'a pas compris et de faire le nécessaire pour comprendre. Ce n'est pas de moi, c'est quelqu'un d'autre. Merci.